Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
L'enquête sur les commanditaires présumés des émeutes du mois de mai ne sera pas dépaysée. Le procureur général Bruno Dalle, qui était notre invité ce matin, a pris sa décision et l'a justifiée. Un couple arrêté après le refus d'obtempérer de la foi au cours duquel un gendarme a été gravement blessé. Une information judiciaire va être ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les élus de la province Sud ont adopté ce matin une nouvelle baisse du budget provincial de 4%. Elle va se traduire par une nouvelle diminution des dépenses de fonctionnement de 11%. L'actualité en métropole, et Michel Barnier continue toujours ses consultations pour constituer son gouvernement. Il pourrait être annoncé la semaine prochaine. Et puis dans la page sport, vous entendrez les deux kitesurfers calédoniens qui ont brillé au championnat du monde junior. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le secteur du tourisme pâtit lui aussi des effets générés par les émeutes. L'absence de touristes, auxquels il faut ajouter des difficultés à bénéficier des aides mises en place, constitue des défis pour les acteurs du tourisme au sens large. Nous en parlerons tout à l'heure dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dès la fin de ce journal. Nous serons en compagnie notamment de Vaïa Froger, la présidente du syndicat des agences de voyage, et de Raphaël Larvor, directeur du développement économique et du tourisme à la province Sud. Des Jeudis de l'économie à retrouver dès la fin de cette édition. L'instruction du dossier sur les commanditaires des émeutes ne sera pas délocalisée. Elle reste en Nouvelle-Calédonie. Le procureur général de Nouméa l'a annoncé ce matin sur notre antenne, Elisabeth Noir.
Le procureur général de Nouméa, Bruno Dalle, avait été saisi il y a 10 jours par les avocats du FLNKS d'une demande de dépaysement de l'instruction des enquêtes sur les commanditaires des émeutes du 13 mai. C'est sur RRB qu'il a annoncé ce matin son rejet de cette demande. Bruno Dalle était notre invité du matin à 7h30.
J'ai pris une décision qui est d'analyser l'ensemble des arguments qui étaient présentés par les avocats, de les étudier le plus sérieusement possible. Et ceux qui liront ma décision verront qu'elle est motivée. Et c'est une décision, à l'issue de cette analyse et à l'issue de tous les arguments que j'ai pu présenter, qui est une décision de non-saisine de la chambre criminelle. Donc c'est un rejet des arguments des avocats du FNKS. Donc ce sont les juridictions de Nouvelle-Calédonie qui, de mon point de vue, doivent rester compétentes parce que l'ensemble des arguments qui ont été soulevés, de mon point de vue, ne sont pas des arguments pertinents.
Le procureur général de Nouméa explique que cette décision est un pouvoir qui lui appartient et il dénonce un certain nombre de pressions, notamment de la part de magistrats locaux qui ont tenté de peser sur la décision.
D'abord, c'est un pouvoir propre, donc je n'ai pas à consulter qui que ce soit. Et surtout, je n'ai pas à être sous la pression de qui que ce soit. Et donc, j'ai écouté ceux qui s'étaient exprimés publiquement. Je connais les appréciations des uns et des autres. Et je crois que ma décision est conforme à ce que les gens raisonnables et sérieux et qui appliquent le droit sont en capacité de décider et de dire. Juste un point, parce que vous m'avez interrogé sur les juges. Je crois qu'il faut toujours se méfier de ce qui est uniquement rapporté par des personnes qui s'auto-proclament porte-parole de la justice dans le cadre d'une expression syndicale. Puisque c'est un magistrat qui, de manière solitaire, a évoqué, d'ailleurs avec la presse nationale, ce qui montre son intérêt pour les activités locales, qu'il y aurait eu des volontés de magistrats de dépaysement. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des inquiétudes quant aux capacités de traiter ce dossier, et que dès le début du traitement de ce dossier, avec le procureur de la République en face parquet, et avec le premier président, dès qu'il y a eu une ouverture d'information, on s'est employé à donner tous les moyens pour qu'il y ait justement une bonne administration de la justice.
Et Bruno Dalle dit que depuis le 15 juillet, un magistrat supplémentaire a été nommé à l'instruction, ainsi qu'un greffier. Et les renforts du ministère de la Justice sont également arrivés pour permettre de traiter sereinement ce dossier. Et il a notamment justifié les détentions en métropole.
Ce sont une 60aine de condamnés qu'on a transférés, tout simplement pourquoi ? Parce que notre devoir, c'est de préserver les conditions de détention qui sont indignes. Le tribunal administratif condamne régulièrement l'État, et donc nous sommes des gens responsables et respectueux des droits, et donc nous avons considéré qu'il fallait que les détenus soient dans des conditions dignes de détention. C'est pour ça qu'ils ont été envoyés pour la plupart en métropole. Et ce travail doit continuer, parce que malgré les efforts de l'administration pénitentiaire, on a encore une situation de détention qui n'est pas satisfaisante, et je rappelle qu'au moment des événements, il y a eu 2 mutineries et donc il n'était pas question de mettre des personnes à nouveau de la CCAT dans la prison au risque d'avoir une nouvelle mutinerie ou d'avoir un appel à marcher sur la prison pour libérer les camarades.
Dans sa décision, le procureur général s'est attaché à répondre aux arguments des avocats du FLNKS qui reprochent notamment au procureur de la République Yves Dupas de dire que la CCAT est une organisation criminelle.
J'ai dû faire un cours de droit en rappelant que l'information judiciaire était ouverte sur des faits d'association de malfaiteurs, sur des délits en bande organisée, sur des faits criminels, et que donc ces qualifications-là, dans un langage courant et pédagogique, ça veut dire organisation criminelle. Ils ont considéré aussi que le fait de dire cela, c'était une atteinte à la présomption d'innocence. Le procureur de la République n'a jamais cité nominativement aucune personne mise en cause dans ce dossier, dans aucune de ses interviews. La seule personne qui est citée, c'est Christian Tain, qui lui-même assume pleinement les responsabilités de chef de la CCAT. Donc tout le débat, c'est de savoir si la CCAT est en totalité ou en partie une organisation criminelle. C'est le but d'une information judiciaire. Et parler d'une structure, c'est pas une atteinte à la présomption d'innocence de cette structure.
Les avocats des 7 militants de la CCAT incarcérés en métropole demandaient donc la délocalisation. Mais dans le même temps, ils réclament le retour des commanditaires présumés en Nouvelle-Calédonie. Le procureur général n'hésite pas à parler de défense schizophrène.
Il y avait beaucoup d'arguments qui étaient issus d'articles de presse et de déclarations, soit du haut-commissaire, soit du procureur de la République. Donc j'ai répondu par point à ces éléments-là. Et puis surtout, le principal thème, c'est la bonne administration de la justice, et je viens de vous donner certains des arguments qui ont été déployés. Et puis je pense qu'il y a un sujet de cohérence. C'est-à-dire que les mêmes avocats qui critiquent nos décisions sur le transfert en métropole des détenus, qui souhaitent leur rapatriement, veulent transférer en métropole le dossier, ce qui signifierait que des juges de métropole seraient compétents et que la détention et le jugement, si un jour il y a jugement, serait en métropole. Donc c'est une défense schizophrène. J'en arrive à me demander si les avocats ne sont pas eux-mêmes sous la pression, c'est les avocats d'ici sous la pression des avocats parisiens.
Rejet de la demande, les juges d'instruction calédoniens vont donc, comme prévu, se rendre en métropole pour auditionner les prévenus. Certains voudraient en faire un procès politique, mais la justice résiste à toutes les pressions, déclare le procureur général, qui précise que les avocats du FLNKS peuvent encore, s'ils le souhaitent, saisir le procureur général près la Cour de cassation.
Et cette interview du procureur général Bruno Dalle est à retrouver en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Justice toujours, et un couple de Canalas arrêté après le refus d'obtempérer à la fois. Samedi dernier, une voiture a forcé un contrôle routier et le chauffeur a percuté un gendarme qui a été blessé. Une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique concernant le conducteur mis en cause. Sa compagne, qui était sa passagère, est quant à elle visée par une information judiciaire pour complicité de tentative de meurtre, Léana Colombo.
Les faits ont eu lieu lors d'une opération anti-délinquance mise en place à la demande du procureur de la République, Yves Dupas. Vers 18h20 samedi soir, trois véhicules se présentent sur la zone aménagé pour être contrôlé. L'un des conducteurs, âgé de 24 ans, n'a pas le permis de conduire. Il décide alors de prendre la fuite pour échapper aux gendarmes. Il redémarre en trombe en montant sur le trottoir et percute de plein fouet le gendarme situé en poste d'appui. Puis un kilomètre plus loin, il est de nouveau tombé sur un dispositif de gendarmes muni cette fois-ci d'une herse. Il a de nouveau foncé sur un militaire qui a réussi, lui, à éviter la collision en se réfugiant derrière son véhicule de service. La voiture a ensuite pris la fuite à vive allure en direction de Canala. Quelques heures après les faits, elle était retrouvée stationnée à la tribu de Grand Couli à Saraméa. Le conducteur qui vit à Nakheti et sa compagne ont été arrêtés mardi dernier. Ils ont été entendus dans le cadre d'une garde à vue et seront présentés au magistrat instructeur dans la journée. Au cours de ces auditions, ce chauffard connu de la justice a déclaré ne pas avoir voulu tuer l'agent des forces de l'ordre. Et j'ajoute enfin que le gendarme a été blessé sur plusieurs parties du corps après avoir été projeté sur le capot de la voiture lors du choc. Pour le moment, son état de santé justifie une incapacité totale de travail de 10 jours.
D'autre part, le Haut-Commissariat a réalisé ce mardi de nombreuses opérations de contrôle des activités de sécurité privée à Nouméa. Au total, 22 établissements et 44 personnes ont été inspectées par le COTAF, le Comité opérationnel territorial antifraude. Le but était de détecter d'éventuelles pratiques illégales de type raquette ou extorsion. Ces contrôles ont permis de révéler 9 infractions concernant la réglementation sur le travail. Il est 11h40, une première pause dans ce journal. Ensuite, nous verrons que la province sud a été contrainte pour la deuxième fois, de baisser son budget principal.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie ?
Ça commence par... Après, ça fait... Ensuite, ça fait... Et là...
Tu connais ?
Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
Vous recherchez une mutuelle complémentaire pour vos salariés? La mutuelle du Nickel est à présent ouverte à tous les secteurs d'activité. Avec votre cotisation, disposez aussi du tiers payant dans nos centres dentaires, d'ophtalmologie, d'audition et d'optique. La mutuelle du Nickel, renseignements au 26 60 40.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Les élus de la province sud sont réunis depuis ce matin en séance plénière. Et une nouvelle fois, Gilles Ménage, cette séance doit réajuster le budget de la collectivité pour tenir compte de l'impact dévastateur des émeutes sur les finances de la province.
Oui, le Congrès avait estimé à plus de 32 milliards de francs les pertes de recettes fiscales qui alimentent, vous le savez, l'ensemble des collectivités. Et la province sud est concernée à hauteur de 10 milliards de francs. La décision adoptée ce matin à l'unanimité implique une nouvelle baisse de ce budget provincial de 4%, qui va se traduire par une nouvelle diminution des dépenses de fonctionnement de 11% au terme de cette deuxième modification. Et malgré l'aide exceptionnelle de 3 milliards apportée par l'État, le budget 2024 de la collectivité s'établit désormais à plus de 77 milliards de francs. C'est dans ce contexte que la province a également acté ce matin la fermeture définitive du collège de Rivière-Salée. Les travaux de rénovation de ce collège étaient initialement prévus au plan pluriannuel d'investissement de la province, mais ce plan de restructuration globale du collège portait sur la rénovation des deux bâtiments qui ont finalement été détruits par les émeutiers et la suppression du bâtiment qui a survécu. Il s'avère que l'ampleur et la complexité des travaux nécessaires à la survie de ce collège, combinés aux coûts financiers très difficilement supportables selon la collectivité dans un contexte budgétaire fortement dégradé, rendre le maintien de ce collège difficilement envisageable. Les effectifs des élèves du primaire et du secondaire connaissent par ailleurs une baisse continue depuis 5 ans en province sud en général, et de façon encore plus marquée sur la commune de Nouméa. Le collège de Rivière-Salée n'échappe pas à cette règle, avec une diminution de près de 7% de ses effectifs sur cette période. Ainsi, avant les exactions commises depuis le 13 mai, le collège accueillait 387 élèves pour une capacité de 900 places. Les élus ont par ailleurs approuvé des mesures qui concernent cette fois la gestion du volume exceptionnel de déchets générés par les émeutes. L'objectif de ces mesures, imaginées en concertation avec la DIMAC et la DI3T, est d'encadrer les chantiers de démolition et les zones de stockage avec des dispositions environnementales très strictes. En direct de la province sud, Gilles Ménage, Radio Rythme Bleu.
Merci Gilles Ménage et nous reviendrons évidemment sur cette séance ce soir dans notre journal de 17h45.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous choqué que la secrétaire générale du RDO, Laurie Oumouni, soit en charge au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des secteurs de la construction et de l'habitat? Si cela vous choque, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 57% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que c'est le Premier ministre qui, au plus haut niveau de l'État, doit s'occuper en priorité du dossier calédonien. Ils sont 43% à penser que c'est le président de la République qui doit s'en occuper. Il faut maintenir le marché du parc Fayard et libérer l'espace public à Dumbéa. C'est la position des élus Génération NC de la commune après que l'exécutif ait pris la décision d'annuler le marché et le vide-grenier du parc Fayard prévu à l'origine ce samedi 15 septembre. Comment peut-on accepter cela tandis que dans le même temps, les militants de la CCAT continuent de squatter impunément l'espace public devant Dumbéa Mall, vendant illégalement leurs sculptures et brochettes de viande, interrogent les élus Génération NC. Pour eux, on choisit d'interdire ce qui est légitime et de laisser agir dans l'illégalité la plus totale ceux qui ont détruit. En conséquence, ils demandent au maire de Dumbéa de bien vouloir revenir sur sa décision et de permettre la tenue de ce marché. Ils demandent également au haut-commissaire de faire le nécessaire afin que l'espace public soit rendu dans son intégralité au Dumbéa. Les feux de forêt sont nombreux pendant cette période de sécheresse. Hier encore, deux feux d'une surface totale de 900 mètres carrés ont pris en bord de la route à La Foix, le premier à midi à Coindé, le second vers 13h au col d'Amieux. Un peu plus tard, à 16h, un hectare a été détruit par le feu à Bouraille, dans le lieu-dit Nécou. Allumé intentionnellement sur le bord de la route, il a heureusement été vite maîtrisé par les pompiers. La majorité des communes du territoire restent placées sous vigilance orange, c'est-à-dire risque très élevé de feux de forêt. Et puis c'est le retour aujourd'hui, après 4 mois d'arrêt, des caps citoyens sur la base navale de Nouméa. Le dernier d'entre eux avait eu lieu le 7 mai avec les élèves du collège Sainte-Marie de Païta, Léo Fichou.
Oui, ce matin, 4 mois après, effectivement, ce sont les élèves du 3e du collège de Bouraille qui ont la chance de visiter de manière ludique la base navale de Nouméa. Une journée chargée en activités, visite de bateaux, rencontres avec les marins-pompiers, mais aussi les anciens combattants. Et puis enfin, une démonstration des fusiliers marins. Les détails du premier maître Arnaud Mille, chargé de l'organisation de ces caps citoyens.
On se réjouit vraiment de pouvoir relancer nos actions jeunesse dont on était habitué à les organiser sur la base navale. C'est très complet. C'est très très complet. C'est un programme basé sur différents ateliers. La priorité numéro une, c'est justement de maintenir ce lien armée-jeunesse-nation. Ça, c'est très important pour nous. La deuxième priorité, c'est bien sûr de faire découvrir les métiers de la marine nationale à tous ces jeunes pour qu'ils puissent voir effectivement tous les métiers qui peuvent exister au sein de l'armée et plus particulièrement au sein de la marine nationale.
L'an passé, près de 40 classes de 3e, soit plus de 700 élèves, ont été accueillis sur la base navale de Nouméa. Cette année, Chiara et Arthur font partie des jeunes élèves qui ont la chance de monter à bord du bateau d'Entrecasteaux.
Oui, c'est toujours plaisant, notamment de visiter les grands bateaux comme ça. On n'a pas l'habitude surtout. Au moins, ça permet de découvrir des nouveaux domaines, surtout dans l'armée. Donc on fait quand même partie de la classe défense et on voit quand même plus l'armée de terre que l'armée, la marine. Mais du coup, là oui, c'est sûr que c'est plaisant de visiter des ensembles comme ça.
On a eu une présentation à peu près globale du bateau, de ses différents ponts, de certains personnels, dont une jeune lieutenant. On a eu pas mal de vocabulaire. Mais après, j'attends plus, c'est les visites. Parce que connaissant déjà un peu l'armée de terre, j'aimerais connaître un peu l'armée de la marine.
Jusqu'à la fin de l'année, 3 à 4 classes par mois seront accueillies sur la base navale, notamment le collège du Mont d'Or, celui de Magenta ou encore de Caméré, mais aussi le SNU.
L'actualité dans la région. En Australie, à Melbourne, des heurts parfois violents se sont produits hier après-midi. Ils ont eu lieu entre des policiers et des opposants à un salon de matériel militaire. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Environ 1000 exposants venus de 31 pays étaient présents à Melbourne, où s'étaient également rassemblés 1500 sympathisants pro-palestiniens et autres opposants à la guerre sous toutes ses formes. Leur intention était de perturber le bon déroulement du salon. À défaut de l'interdire ou de le prendre d'assaut, ils ont insulté ceux qui s'y rendaient avant d'attaquer la police censée en protéger les abords. Les émeutiers ont lancé des pierres, du crottin de cheval et de l'acide aux forces de l'ordre qui étaient épaulées par la police montée. Ils ont également incendié des poubelles et détruit des palissades. Les policiers, dont une quarantaine ont été blessés, ont riposté par des tirs de grenades incapacitantes, de gaz poivre et de balles en caoutchouc. Ils ont aussi procédé à plusieurs arrestations. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h49, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
En ce moment, complexe le 4, 200 000 francs de courses à gagner chaque mois. Vos courses pourraient vous rapporter gros. Alors vite, rendez-vous dans les enseignes du complexe le 4, C'est Local, C'est Gel et la Maison du Pain pour tenter votre chance.
Le 4.
186 rue Jacques Yécaoué, 4e kilomètre.
Une autre façon de faire vos courses.
Règlement déposé chez Maître Citrita.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin.
D'abord l'actualité en métropole et l'annonce d'un gouvernement la semaine prochaine, c'est ce qu'espère Michel Barnier. Le Premier ministre poursuit ses consultations. Après les députés macronistes d'Ensemble pour la République, il a rencontré ceux d'Horizon, d'Édouard Philippe, qui organisait également leur journée parlementaire. Et il y a reçu un accueil très chaleureux. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Michel Barnier s'est dit ému par le traitement que lui a réservé son prédécesseur à Matignon sur BFM TV. Édouard Philippe n'hésite d'ailleurs pas à apporter son soutien au nouveau Premier ministre.
Michel Barnier, c'est un homme expérimenté, méthodique, droit, qui sait ce que c'est que la discussion et le compromis, qui sait être ferme aussi, qui rassure nos partenaires européens. Dans cette situation inédite, il est probablement le mieux placé pour essayer d'avancer, de faire avancer le pays.
Des amis d'Édouard Philippe seront-ils dans le futur gouvernement? Bien sûr, répond sans hésiter le Premier ministre. Il n'y a pas de différence philosophique entre nous et Michel Barnier, abonde à poids lourd d'horizon, qui imagine son parti comme le centre de gravité de la future majorité. Je pense que nous sommes ceux qui mégotons le moins notre soutien, confie un autre proche du maire du Havre. D'autres sont beaucoup plus réticents, affirme-t-il, en pointant du doigt Renaissance de Gabriel Attal et les LR de Laurent Wauquiez, de formation qui, à ses yeux, multiplie les lignes rouges dans les négociations en cours pour composer le prochain gouvernement.
Et après les députés Horizon, le Premier ministre a rencontré ceux du Modem. Il doit la nuit prochaine participer à la rentrée parlementaire des députés LR de Laurent Wauquiez qui ont déjà donné leur feu vert à une participation au futur gouvernement. Mais Laurent Wauquiez a rappelé qu'il serait attentif aux garanties qui seraient données sur une vraie politique de droite sur les sujets, a-t-il dit, que nous jugeons fondamentaux. L'actualité en métropole est aussi judiciaire avec la colère du père de la petite Camilia, 7 ans, tuée par un jeune motard qui faisait de la roue arrière à Valoris. La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé que le jeune chauffard de 19 ans restait libre sous contrôle judiciaire, ce que ne comprend pas Slim, le père de la jeune victime.
Le comportement de la justice, en fait, je ne comprends pas. En fait. Quand ton fils il te demande le matin, il te dit « Mais papa, comment ça se fait qu'il n'est pas en prison ? Qu'est-ce que vous lui répondez ?» Et c'est quoi le message qu'ils sont en train de passer à la justice à cette jeunesse, en fait ? En fait, on a des policiers qui se cassent le cul pour mettre l'ordre sur la voie publique. Il y en a d'un autre côté, la justice, elle n'en a rien à foutre, en fait. On vit dans deux mondes différents entre la justice et le peuple. On n'est pas dans le même monde, apparemment.
Et le jeune homme de 19 ans qui est responsable de cet accident qui a coûté la vie à Camilia assure qu'il ne faisait pas exprès de faire de la roue arrière. Et puis à Grenoble, les forces de l'ordre continuent de traquer l'homme de 25 ans, soupçonné d'avoir sorti une arme et tiré à 2 reprises sur un agent municipal qui l'empêchait de prendre la fuite après avoir provoqué un accident. Le parquet de Grenoble a ouvert une information judiciaire. Jean-Luc Goujon.
Cela veut dire que l'enquête est désormais menée par un juge d'instruction, en l'occurrence une juge du tribunal de Grenoble. Cette information judiciaire est ouverte pour meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public, également pour blessure involontaire aggravée par la vitesse et le délit de fuite pour ce qui concerne l'accident de la circulation. Mais sur le fond, cela ne change pas grand-chose. Pour l'heure, le plus important, c'est de retrouver le suspect dont la traque continue avec tout un groupe de policiers entièrement dédiés à cette recherche qui est la top priorité de la PJ de Grenoble, d'autant que les L'Élysée a aussi fait passer le message qu'il fallait résoudre cette affaire au plus vite. Pression maximale donc sur la police, mais pour le moment, le suspect reste introuvable. Il a pu quitter la région et se réfugier ailleurs en France, là où il a peut-être de la famille. Il a pu aussi partir à l'étranger. La Suisse ou l'Italie ne sont pas loin. Ou alors, il se terre peut-être toujours quelque part dans la banlieue de Grenoble, où il a toujours vécu, car c'est l'endroit où finalement il peut compter sur le plus de soutien logistique. En tout cas, aucune garde à vue de proche, par exemple, n'a eu lieu pour le moment. Un mot quand même concernant la victime, Lilian Dejean. Il devrait être enterré en début de semaine prochaine en Guadeloupe. Ses proches réfléchissent aussi à organiser prochainement une marche blanche à Grenoble pour lui rendre hommage.
Jean-Luc Goujon pour Europe 1. Aux États-Unis, c'était hier pour nous le seul débat entre Donald Trump et Kamala Harris avant la présidentielle du mois de novembre, deux candidats qui sont au coude à coude dans les sondages. Mais 63% des téléspectateurs ont jugé la candidate démocrate plus convaincante que l'ancien président. Alors ce débat va-t-il changer la donne ? La correspondance d'Anne Toulouse.
Avant le débat, les commentateurs se demandaient quelle version de Donald Trump on allait voir. On a vu la pire. Un Donald Trump mauvais joueur qui s'est précipité dans la salle de presse pour expliquer qu'il venait de réaliser son meilleur débat. Il ne devait pas en être intimement persuadé puisqu'il s'en est pris aux deux modérateurs qui, il est vrai, ont laissé passer quelques occasions de presser Kamala Harris lorsqu'elle a éludé des questions sur les performances de la présidence Biden. Mais Donald Trump n'a pas insisté non plus, tout à son obsession de remâcher ses rancœurs contre l'actuel président, au point que son adversaire a pu lui dire « Je vous rappelle que vous vous présentez contre moi et non contre lui ». Il a tendu la perche à Kamala Harris pour qu'elle se définisse comme la voix de l'optimisme et de l'avenir face à un homme en colère. Lors de son premier débat contre Hillary Clinton en 2016, Donald Trump avait, par sa faconde et sa vitalité, réussi à se présenter comme le candidat du changement. Il a montré mardi soir que, comme Joe Biden, il a mal supporté le poids des années.
Il est 11h55, la dernière pause de ce journal, et dans un instant, ce sera l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
La Maison du Pain Calédonien, votre boulangerie du Complexe Le 4, vous accueille du lundi au vendredi de 6h à 17h et le samedi de 6h à midi. En plus des viennoiseries, des formules petit déjeuner et formules du midi, vous y trouverez des pains fraîchement sortis du four à toute heure de la journée.
Complexe Le 4, au 186 rue Jacques Yécaoué. Faites vos courses autrement.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et avant de retrouver Jean-François Baudin, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
L'actualité sportive, et on va d'abord parler kitesurf pour réentendre les jeunes calédoniens qui ont brillé la semaine dernière au championnat du monde junior, Léo Fichou.
Et oui, sur le spot de Tarifa dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, la triple championne de France, Phoebe Rocher, a décroché le sacre mondial. Une belle revanche pour la calédonienne qui avait terminé, on le rappelle, un troisième en 2022 et en 2023.
Je suis vraiment super contente, c'était mes plus gros objectifs pour 2024. C'est une super façon de terminer mes années en compétition junior. Et j'ai travaillé fort toute l'année pour atteindre ce titre. Et c'était juste un moment incroyable de réussir à l'avoir, quoi. Là, cette année, j'ai finalement pris ma revanche et j'ai le résultat que je voulais, quoi.
Juste après Phoebe Rocher, c'était au tour d'Antoine Olivier chez les garçons, champion du monde junior en titre. Il a malheureusement terminé sur la deuxième marche du podium et ne conserve pas son titre de champion du monde. Un peu de déception pour lui, mais beaucoup d'espoir pour la suite chez les seniors.
La première sensation que j'ai eue à la fin de mon hit, c'était forcément un peu de déception, hein, parce que c'est sûr que j'avais envie d'être champion du monde une deuxième fois. C'était mon objectif, mais bon, voilà, c'est comme ça. Les prochaines échéances, c'est en octobre pour les championnats de France, où là, je vais participer donc chez les juniors pour la dernière année. Et je vais aussi faire chez les seniors. Tant qu'à y être, on verra exactement comment ça se goupille, mais voilà. Et après, pour les championnats du monde seniors, donc ça va être au Brésil et ça va être en novembre.
On retrouvera donc les deux jeunes calédoniens, Antoine Olivier et Phoebe Rocher, en octobre au championnat de France. Ils seront tous les deux engagés chez les juniors, mais aussi chez les seniors.
La suite de sport et du football est le deuxième match de la sélection féminine des moins de 16 ans au tournoi océanien.
Dans à peine 2 heures, les calédoniennes joueront contre les îles Salomon. C'est donc à 14h. Elles se sont inclinées lors du premier match face aux Néo-Zélandaises, 8-0. Victoire donc obligatoire aujourd'hui pour si elles veulent continuer de croire à la qualification pour les demi-finales. Le match est à suivre en direct sur le site internet de la FIFA.
Et puis toujours en football, ce sera la suite ce soir de la 4e journée du trophée du Grand Nouméa.
Oui, suite et fin de cette 4e journée, avec à 18h Melec qui affronte Horizon Sport. Le match sera suivi à 19h45 de Magenta contre l'AS Ouetch. Horizon Sport et Magenta qui tenteront de récupérer la première place à Tigasport qui a été tenue en échec par Gaïcha mardi soir.
Merci Léo, c'est la fin de ce journal.